좀.
Je vous laisse en compagnie de Romain Ozoui pour l'édition spéciale consacrée au Burkina Faso.
Merci Marine de la Moissonnière.
Édition spéciale sur RFI.
Édition spéciale après l'attaque terroriste qui a touché le cœur de Ouagadougou. Le dernier bilan est d'au moins 28 morts. Attaque qui a touché simultanément, donc hier soir, l'hôtel Le Splendide et le café-restaurant Le Cappuccino à Ouagadougou. S'en est suivi un assaut qui a duré 12 heures. On va revenir sur ces événements pendant 50 minutes avec vous, Sylvie Berbé. Bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À nos côtés en studio, mais également nos invités. Dans quelques instants, on retrouvera notamment l'ancien ministre malien des Affaires étrangères, Soumeilou Boubey Maïga. Mais tout d'abord, direction la capitale burkinabé justement, où vous vous trouvez, Yaya Boudani. Vous suivez pour RFI les événements depuis hier soir. Quelle est ce soir la situation? Est-ce que les opérations de ratissage qui ont été menées par les forces de sécurité se poursuivent encore actuellement? Yaya Boudani, en direct de Ouagadougou.
Ah, il semblerait qu'on ait un petit problème de ligne avec Yaya. Alors,
on retrouve Yaya Boudani dans la capitale burkinabé.
Yaya, vous nous entendez? Non, je pense qu'on va peut-être enchaîner avec un pays qui est sous le choc, le Burkina Faso, au lendemain de la pire attaque qui l'est connue. Ouagadougou, donc, visé par une attaque djihadiste. On en parlait dès hier soir. Tout a démarré. Un commando a pénétré dans l'hôtel Splendide avant de s'en prendre au café Cappuccino qui se trouve en face de cet établissement. Et puis, toute la nuit, l'assaut a duré. Les forces spéciales ont dû intervenir. C'est donc un pays qui se réveille en état de choc aujourd'hui. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, comme on l'appelle, frappé en plein cœur de Ouagadougou. Il y a beaucoup de morts, le bilan est encore incertain. On parle de 26 à 28 morts, hein, Romain, selon les sources. Je vous propose peut-être de joindre Frédéric Gara, qui, lui, a donc s'est rendu sur place, notre correspondant à Abidjan, qui se trouve à Ouagadougou. Et Frédéric, vous êtes rendu dans les hôpitaux, des hôpitaux submergés. Quelle est la situation sur place ?
Frédéric Gara, à Ouagadougou, dans les hôpitaux de la capitale burkinabé.
Ah, on nous dit que Yaya Boudani, nous l'avons retrouvé. Yaya Boudani, vous êtes avec nous en direct de Ouaga. C'est donc votre pays s'est réveillé en état de choc ce matin. Où en sommes-nous des opérations? L'assaut a été interminable, il a duré pratiquement toute la nuit. Quelle est la situation ce soir à Ouaga?
Les forces de sécurité burkinabé appuyées des forces françaises sont venues à bout des djihadistes et les opérations de ratissage ont eu lieu pratiquement toute la journée dans les différents immeubles et dans tous les recoins des rues qui jouxent l'hôtel Splendide, également l'hôtel Libi ou encore le café-restaurant Le Cappuccino. Il faut dire que avant même le lever du jour, les forces de défense avaient quadrillé toute cette partie de la ville interdisant l'accès de cet endroit à tous les habitants. Un couvre-feu avait été installé et là, au cours de la journée, ils ont fini par venir à bout de ces djihadistes. Nous avons vu trois corps, en tout cas en face, tout près du restaurant Cappuccino, et les forces de défense et de sécurité procédaient à l'identification des différentes victimes. Comme vous l'avez dit, nous avons noté un bilan provisoire de 26 personnes tuées, dont 4 assaillants. Et il faut noter également que certains otages avaient dit qu'il y avait toujours un autre djihadiste qui était bougé quelque part dans un immeuble, mais les fouilles n'ont rien permis. Donc même un conseil des ministres s'est réuni au cours de la journée, au cours de ce conseil des ministres, le chef d'État, le président du Faso, Rochma Christian Kabore, a tenu une réunion d'urgence avec tous les hauts gradés de l'armée afin de trouver des mesures idoines pour venir à bout de l'insécurité dans la capitale.
Et on va évoquer effectivement cette insécurité qui se propage au niveau régional. Merci Yaya Boudani en direct de Ouagadougou. On va à présent, Sylvie, écouter un témoignage.
Oui, on l'a dit, il y a une nuit de terreur qui a saisi Ouaga, frappé en plein cœur donc par le terrorisme, une attaque djihadiste. Je vous propose d'écouter à présent ce témoignage de cet homme. Il s'appelle Alino. Il se trouvait à quelques mètres du Splendide lorsque l'attaque a commencé. Et évidemment, il est sous le choc. Il nous raconte.
Comme on n'était pas loin, on était à côté du Cappuccino, on s'est approché.
Et là, on a vu deux corps qui gisaient au niveau de la terrasse. Ça tirait un peu partout, des tirs d'armes hein, automatiques, et ça partait dans tous les sens. Et devant la devanture de Splendid Hotel, il y avait des voitures qui étaient cramées. C'était la peur partout. Et donc, à un moment, les tirs étaient tellement forts qu'on était obligé encore de replier dans le sous-sol où on était. C'était terrible. Vous savez, quand vous entendez ce genre d'attaque, c'est en Afghanistan, Paris a vécu ça, mais vous vous dites, ça ne vous arrivera pas. Et un jour, ça vous arrive, et là, vous êtes pantois, vous êtes vraiment étonné. Je pense qu'il y a une situation de malaise, et malheureusement, il y a beaucoup de morts. Bon, je pense que ces gens-là, il faut qu'ils sachent une chose. Le peuple burkinabé restera soudé. On va se donner les mains dans la main, quelles que soient nos divergences. Et puis, je pense que comme la France l'a fait, on va surpasser cette situation-là. On va reconstruire notre pays et on ira de l'avant.
Voilà, reconstruire le pays et aller de l'avant, on sent une colère froide. Alino, donc ce témoin des propos recueillis par Karine Franck.
On a rétabli la ligne avec Frédéric Gara. Frédéric, on le disait tout à l'heure, vous êtes rendu dans un hôpital de la capitale burkinabé auprès des victimes.
Oui, tout à fait. Il s'agit en fait de l'hôpital central, l'hôpital Yalgado Odango, le CHU de la ville où effectivement depuis hier soir on a assisté à des scènes un peu apocalyptiques où les blessés sont arrivés petit à petit au départ et puis en très grand nombre et puis les familles aussi des victimes se sont précipitées à l'hôpital pour tâcher de retrouver leurs proches, leurs parents. Les témoignages qu'on a pu recueillir là-bas, ceux des chirurgiens, ceux des urgentistes, nous explique que autant au moment de la révolution civile, au moment du putsch même, du RSP putsch avorté, on s'attendait à ce que recevoir des blessés en nombre, des blessés graves, soit par balle, soit lors d'affrontements et de chocs, autant cette fois-ci, autant hier soir, tout le monde a été pris de court, d'où une très grande confusion, une très grande panique, des gens sous le choc, le personnel a essayé, le personnel médical a essayé autant que faire se peut d'accueillir tout le monde. À l'heure où nous parlons, tous les décès ont été soignés correctement, blessures par balles essentiellement, qui ont occasionné des fractures ouvertes ou des fractures simples. Et surtout des gens extrêmement traumatisés, ceux qui étaient au café Cappuccino, ceux qui étaient à l'hôtel Splendid, nous ont expliqué qu'ils ont vécu un véritable cauchemar, qu'ils ne s'attendaient évidemment pas à ce genre de scène dans Ouaga qui est si paisible en temps normal. Évidemment, les parallèles avec, par exemple, les attentats en France contre le café du Bataclan ou les restaurants du 11e arrondissement sont tout de suite revenus en mémoire de beaucoup de gens. Il faut signaler aussi que hier soir, il y a eu des scènes de panique au niveau de l'Institut français lorsqu'on a appris qu'il y avait des attentats dans le centre-ville de Ouagadougou. Il y avait un spectacle au même moment à l'Institut français, à l'ex-centre culturel français. Et là aussi, tous les gens qui assistaient à un concert gratuit ont été pris de panique. Le personnel de sécurité leur a demandé de se réfugier au plus loin de l'Institut et de se protéger au maximum. Et là aussi, il y a eu un vent de panique à ce moment-là sur Ouagadougou. Mais évidemment, pas de blessés, pas de victimes du côté de l'Institut français.
Merci Frédéric Gara. Nous sommes à présent en ligne avec Lemine Ould Salem, journaliste mauritanien. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors le premier enseignement de cette attaque, c'est que Al-Mourabitoun frappe encore ce groupe hein, lié à Acme, qui était l'auteur de l'attaque il y a moins de deux mois contre l'hôtel Radisson de Bamako.
Effectivement, l'un des premiers enseignements est effectivement que le groupe Al-Mourabitoun, donc qui est une des filiales locales d'Al-Qaïda, demeure très actif. Et donc il y a eu effectivement le Radisson il y a quelques temps, puis après il y a également eu plusieurs actions peu médiatisées, mais qui ont lieu notamment dans le nord du Mali, et très souvent ces actions ont été le fait de ce groupe-là. Alors, il faut se poser la question aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui Al-Mourabitoun s'en prend au Burkina Faso? Et on sait que ce pays a plus ou moins été à l'abri jusqu'ici, mais il semble évident que le départ de Blaise Compaoré et le démantèlement de ses services de sécurité qui avaient réussi plus ou moins à établir une sorte de pacte de non-agression avec ces groupes, cette situation aujourd'hui donc rend le Burkina Faso une des cibles privilégiées d'Al-Mourabitoun et des autres groupes djihadistes présents au Sahel.
Alors, on a appris également, monsieur Liminoul Salem, l'enlèvement de deux Australiens la nuit dernière, un rapt qui a été revendiqué par l'Émirat du Sahel. Ce couple a été enlevé à Baraboulé, c'est dans la région sahélienne qui est située dans le nord du Burkina, frontalier du Niger et du Mali. Vous êtes auteur d'un documentaire sur les djihadistes au Mali et vous avez vous-même vécu l'arrivée des djihadistes dans le nord du Mali en 2012. On a un peu l'impression aujourd'hui que tous ces mouvements se mélangent. Qu'en pensez-vous ?
Alors, il faut revenir à l'histoire de ces groupes. Tous ces groupes, en fait, trouvent leur origine chez l'ex-GIA algérien, devenu plus tard le groupe salafiste pour la prédication de combat du GSPC, qui deviendra plus tard Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors, tous ces groupes sont évidemment liés les uns aux autres. Et d'ailleurs, dans une interview datée d'il y a quelques jours de l'émir d'Al-Qaïda au Sahara, c'est-à-dire la branche saharienne d'Aqni, Yahya Abou Hammam, interview accordée à une agence mauritanienne, cet émir confirmait les liens organiques entre les différentes branches, c'est-à-dire aussi bien Aqni, Al-Mourabitoun, Anfardin, mais aussi le Front de Libération du Massina, qui est la filiale peul malienne d'Al-Qaïda, en quelque sorte. Les liens entre ces groupes sont évidents et ils agissent très souvent en étroite collaboration. On l'a vu au Radisson, on l'a vu aussi quelques semaines avant le Radisson dans le nord du Mali quand des éléments d'Al-Qaïda, on va dire des familles de Mauritanie, avaient opéré contre une position de la MINUSMA. Donc ce sont des liens évidemment très des liens effectifs.
Lemine Salem, vous restez avec nous pendant cette émission spéciale, on le rappelle, consacrée aux événements survenus hier soir à Bamako, ces attaques djihadistes, une attaque qui a débuté en début de soirée, rappelons-le, contre l'hôtel Splendid et le Cappuccino revendiqué par Acme. Et nous avons pu avoir des informations sur la composition de ce commando par la voix du nouveau ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry, qui s'exprimait à midi sur notre antenne.
L'information qui se recoupe avec celle-ci côté burkinabé, c'est que effectivement il y avait un groupe de personnes qui étaient déjà à l'hôtel, qui ont même participé à la prière du vendredi de la mosquée d'à côté et qui ont été rejoints donc le soir par des vrais commandos qui a enclenché les hostilités, si on peut dire, au Cappuccino et devant l'hôtel avec en tuant d'abord les vigiles. Donc on pense qu'il y avait des éléments précurseurs qui était là, et bon, ça pose toujours le même problème, hein, celui de la sécurité, du renseignement, le bon renseignement.
La revendication Acme Al-Mourabitoun, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est une situation globale sous-régionale, hein. Le président Roch Kabore l'avait souligné dans son discours d'investiture. Il faut une concertation entre les pays pour faire face à une menace qui est sous-régionale, qui est internationale, qui est même mondiale. Et nous ne sommes pas étonnés de cette revendication.
Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères. On retrouve à présent Newton Ahmed Barry, éditorialiste à l'événement. Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce lien qu'on fait entre l'attaque du Radisson à Bamako il y a moins de deux mois et l'attaque terroriste qui s'est passée hier soir à Ouagadougou ?
Écoutez, au risque de paraître singulier, évidemment, dans ces explications qui sont en train d'être entérinées, moi, je rapprocherais plutôt l'attaque de Ouagadougou d'hier soir à celle qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à Sévaré contre l'hôtel Babylos, où il me semble que le modus operandi est à peu près le même. J'aimerais aussi, du point de vue de la revendication de Al-Mourabitoun hier, émettre deux avis. Ça me paraît avoir été fait très rapidement, évidemment de façon aussi non précise, avec des éléments qui ne sont pas tout à fait clairs, qui me font penser probablement qu'il faudrait peut-être regarder aussi ailleurs. Et moi, évidemment, comme je dis encore, au risque d'être un contre tous, il me semble plutôt que cette attaque d'hier-là est la résultante d'un certain nombre de séries qui avaient déjà eu lieu et qui avaient été le fait du mouvement de libération du Massina et Amadou Koufa.
Et quand vous dites ailleurs, monsieur Newton Ahmed Barry, vous pensez à où précisément ?
Quand je dis ailleurs, par rapport évidemment à ce qu'on dit, c'est-à-dire les explications qui sont données jusqu'à présent. sauf si je n'ai pas bien compris votre question.
Est-ce que ce mouvement du Massina a déjà fait parler de lui au Burkina Faso?
Ah si, par deux fois d'ailleurs, l'année dernière, avant évidemment, autour de la période septembre-octobre, il y a eu une première fois, non loin de la ville de Barani, ils n'ont pas pu rentrer à l'intérieur du Burkina Faso, et puis très vraisemblablement, en attendant évidemment, les confirmations des forces sécuritaires burkinabènes, l'attaque de Samorogouan le 9 octobre 2015 est probablement le fait de ce groupe-là. Et justement, après l'attaque de Samorogouan, les troupes basées, les troupes burkinabènes qui sont basées donc au niveau de Tchou, donc à la frontière avec le Mali, avaient, sans qu'on l'officialise évidemment, fait une opération coup de poing contre les bases ou un certain nombre d'éléments de Amadou Koufa qui sont dans la région évidemment de non loin de derrière Koro, donc dans la région de Bandiagara. Et il me semble que depuis cette période-là, ce groupe djihadiste était évidemment en situation de préparation d'une revanche. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ces éléments-là qui sont les éléments matrices, évidemment, de la...
Vous voulez dire que ce serait motivé par une volonté de se venger, en fait?
Il y a ça, et puis aussi, il faut lier ça à Sardine. Moi, je pense que Mourabi Toun, probablement, parce que lorsque vous regardez tout le nord du Burkina Faso, quand on regarde Gao n'est pas loin, évidemment, de la région de Gorom-Gorom, donc où est partie la première attaque hier dans l'après-midi, cette zone-là est émaillée, ou en tout cas, est par les débris, si on peut l'appeler ainsi, du Moujao, qui avait donc établi, une fois qu'ils ont été chassés par les Français en janvier 2013, après l'opération Serval, ils se sont repliés dans cette partie-là et avaient entretenu une bonne intelligence avec les éléments du RSP, l'ex-régiment de sécurité présidentielle, qui assurait la sécurité de cette partie-là. N'oubliez pas une chose aussi qui est un élément extrêmement important, c'est que pendant longtemps, jusqu'au coup d'État du 16 septembre au Burkina Faso, la question terroriste était gérée uniquement par le RSP.
Merci Monsieur Nuzon Ahmed Barry, on vous retrouve dans la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée aux événements survenus au Burkina Faso.
On retrouve à présent Soumaïlou Boubey Maïga à la tête d'une équipe d'experts de l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Est-ce que vous avez entendu un petit peu le questionnement de Newton Ahmed Barry concernant le lien entre l'attaque il y a moins de deux mois de l'hôtel Radisson à Bamako et l'attaque djihadiste qui a eu lieu hier soir dans la capitale burkinabé? Vous en pensez quoi?
Là, ce que je pense, c'est que nous faisons partie du monde. C'est peut-être trivial de le dire, mais nous faisons partie du monde. Ça veut dire que nos pays font partie du champ de confrontation globale qu'il y a aujourd'hui entre une bonne partie du monde et puis tous ces groupes terroristes, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit l'État islamique. Et que chaque fois que nos partenaires les frappent sous d'autres cieux, eux aussi peuvent prendre leur revanche d'une manière ou d'une autre dans les pays où les cibles sont plus faciles à atteindre. Cela dit, aujourd'hui, quand on regarde la carte du terrorisme dans notre sous-région, on a trois principaux foyers, c'est le Sahel, avec le Mali comme épicentre, c'est le sud de la Libye, et puis c'est le bassin du lac Tchad. Et toute cette zone, c'est un espace qui a un réseau et il y a une unité territoriale de fait, parce que j'entendais tout à l'heure M. Newton, c'est que quand vous prenez, vous pouvez aujourd'hui, à partir du nord-est du Mali, donc c'est-à-dire du nord-ouest, l'extrême nord-ouest du Niger, descendre sur le Burkina, tout le nord fait frontière avec quatre régions du Mali, sur les huit, et qui se prolonge, un couloir qui se prolonge sur le nord de la Côte d'Ivoire, qui peut pénétrer dans le Mali par le centre, par le delta, c'est-à-dire là où le fameux front de libération du Massina.
Monsieur Soumaïlou Boubey Maïga, cette première partie d'émission défile à vitesse grand V. En 30 secondes, s'il vous plaît, fallait-il s'attendre à cette attaque? Êtes-vous surpris en fait?
Non, je ne suis pas surpris parce qu'aujourd'hui, tous les pays sont des cibles potentielles. Je ne suis absolument pas surpris. Tous les pays sont des cibles potentielles et il est important que nos gouvernements réalisent que la sécurité dans la sous-région est absolument indivisible.
Merci Soumaïlou Boubey Maïga. On vous retrouvera certainement dans la seconde partie de cette émission spéciale consacrée donc à l'attaque terroriste qui a eu lieu hier soir à Ouagadougou. Restez avec nous dans 30 secondes. Un point sur l'actualité. On revient juste.
L'attaque pouvait avoir lieu du temps de l'ancien président Compaoré?
Oui, écoutez, bonsoir. Ce que je crois, que je crois, c'est que cette attaque fait suite à d'autres attaques dans toute la sous-région et pas seulement, même au niveau international, notamment en France. Donc ce que je crois c'est aussi, c'est que cette attaque n'est pas due au hasard. Elle est forcément soutenue, quelque part. Par contre...
Vous voulez dire soutenue par qui ?
Je veux dire simplement soutenue par des commanditaires. Je veux dire aussi simplement, si ce n'est commandité, dans tous les cas, elle fait l'affaire de certains de nos détracteurs.
Mais est-ce que vous pouvez être un peu plus précis dans ces accusations ?
Je parle de Soro, bien sûr, qui est en communication, dont la communication a été saisie avec Bassolet.
Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international qui vient d'être émis par la justice du Burkina Faso. En fait, vous le pointez du doigt.
Non, je ne dis pas que c'est lui, je n'en ai aucune preuve, mais je me dis que, admettez quand même qu'il y a de drôles de coïncidences, parce que tout ce qui est dit dans cette conversation téléphonique, la stratégie qui est dévoilée dedans, de tirer un peu au hasard, d'attaquer un peu partout, c'est la même qui est employée. Maintenant, mon problème à moi, c'est que ce qui est important finalement, c'est de comprendre que même si Blaise Compaoré, nous n'avons pas subi d'attaque au sein de la ville de Ouagadougou, tout le monde est d'accord pour dire que Ouagadougou, c'était quand même le repère de tous ces malfrats.
Et pourquoi justement? Justement, si ces attaques n'ont pas eu lieu sous Compaoré, elles ont lieu aujourd'hui, c'est le symbole démocratique, finalement, actuel du Burkina Faso qui a été visé?
Écoutez, avez-vous déjà vu un soutien au terrorisme subir le terrorisme? Parce qu'il est quand même assez flagrant que Blaise Compaoré est impliqué dans des trafics d'armes en tout genre et des deals avec ces terroristes en question. Donc je pense que aussi on peut raisonner autrement. On peut se dire que c'est peut-être le pompier pyromane justement qui a les moyens d'éteindre le feu. Voilà, je pense qu'aujourd'hui ce qui est important pour nous, au-delà effectivement de l'affliction qui touche tout le peuple burkinabé, c'est de se ressaisir et par l'engagement citoyen de faire en sorte que nous soyons 18 millions de soldats aux côtés de l'armée burkinabé.
Mais le Burkina a montré à maintes occasions ces derniers mois qu'il savait se ressaisir face à la menace, face au danger. Comment le pays va-t-il se relever, un pays très jeune, on le sait, hein, qui vous a beaucoup suivi, le ballet citoyen dans le mouvement d'insurrection populaire. Comment va-t-il se relever, le Burkina?
Ben écoutez, il va faire face courageusement à son destin. Il va retrousser les manches et puis il va se mettre à, je crois, tout simplement à jouer aussi son rôle de citoyen, à prendre sa citoyenneté à bras le corps. J'espère bien que nous allons pouvoir être des vigiles, et que nous allons pouvoir accompagner les forces de l'ordre dans ce travail de sécurisation. Et pas simplement au Burkina Faso, aussi dans les pays frères et amis comme le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, etc.
Et on parlera tout à l'heure de ce mouvement de solidarité après ce drame, voilà. Ces attaques qui ont frappé Ouagadougou.
Merci Smoky. On retrouve à présent, on vous a déjà eu dans la première partie de l'émission, Newton Ahmed Barry, hein, je rappelle que vous êtes éditorialiste à l'événement. Cette attaque terroriste qui a eu lieu hier soir est un premier défi pour le président Kaboré.
Oui, évidemment, c'est un premier défi parce qu'il arrive aussi entre deux, c'est-à-dire que l'administration ancienne, celle de la transition, est partie sans que la nouvelle ne se mette véritablement en place. Donc, le gouvernement a été nommé il n'y a même pas 72 heures, donc il y a quand même une situation évidemment de vide. Peut-être est-ce que c'est là la fenêtre d'opportunité que les terroristes qui cherchaient, en fait, faut quand même dire que ce n'est pas maintenant que cette attaque-là est préparée, hein. C'est un élément de longue date, on peut s'en douter.
Et qu'est-ce que doit faire le nouveau gouvernement qui a été nommé seulement il y a 3 jours, on le rappelle, hein, maintenant?
Évidemment, il faut recoller les morceaux de la sécurité et de la défense qui ont été ébranlés à partir du coup d'État, déjà à partir du 30 et 31 octobre, puisque l'insurrection est venue comme une sorte d'ouragan qui a tout balayé sur son passage. Évidemment, tous les éléments qui étaient en place, donc par rapport à la réactivité, mais même par rapport à la profondeur des actions en ce qui concerne la sécurité, ont été totalement balayés, parfois même sans discernement. Donc il va lui falloir rapidement remettre en place un système qui tient. D'ailleurs, c'est ça qui fait que si on remarque, hier, il a fallu près d'une heure de temps après le début des attaques, en tout cas selon les témoignages de ceux qui étaient là-bas, pour que les forces de sécurité commencent à intervenir. C'est quand même un temps trop long.
Il y a peut-être le mouvement de stupeur aussi, le Burkina qui avait été épargné jusque-là. Il y a la stupeur qui pourrait expliquer ce que vous qualifiez de lenteur de réaction.
Oui, mais les forces de sécurité ne peuvent pas être dans la stupeur dans un pays. Sinon, les citoyens sont dans la stupeur, je peux comprendre. Mais les forces de sécurité, c'est tout. D'autant plus qu'ils ne devaient même pas être dans la situation de stupeur, puisqu'il y avait des coups de semonce quand même. Depuis avril 2015, je vous dis, il y a eu une série d'attaques qui se rapprochaient de plus en plus de la capitale. Et tous les services de renseignement peuvent dire, et d'ailleurs c'est pour cela que le couvre-feu a été maintenu, parce que depuis septembre, le Burkina vit un peu sous le couvre-feu, donc ça veut dire qu'il y avait une situation d'insécurité non totalement maîtrisée. Et donc évidemment, on ne peut pas dire que la stupeur seule peut expliquer la situation ou la lenteur des réactions d'hier.
Merci Newton Ahmed Barry.
Oui, justement, on parlait des défis du tout nouveau gouvernement du président Kabore, vous le rappeliez, Romain Ouzoui, gouvernement qui a été formé il y a 3 jours, donc c'est une véritable épreuve hein, pour les observateurs. La première mission du nouveau gouvernement devait être la lutte contre le chômage des jeunes. Désormais, est-ce qu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme? Que doit faire cette nouvelle équipe gouvernementale? Eh bien, Chantal Leroux a posé la question à la mi-journée à Laurent Bigot. Laurent Bigot, ancien diplomate et spécialiste du Burkina Faso.
Ça met en lumière les autres défis, et ils étaient nombreux, qui se présentaient à lui. Et le premier, c'est qu'il va falloir réconcilier le pays, parce que pour faire face à la menace terroriste, on ne peut pas y aller en ordre dispersé. Donc il va falloir une unité nationale qu'il va construire à la force du poignet avec sa légitimité politique. Et c'est pas une mince affaire, parce qu'après 27 ans de régime Compaoré, il va falloir s'atteler à beaucoup de choses. Donc là, je crois que le principal défi, c'est de recréer de l'unité au sein du pays pour faire face à cette menace.
Est-ce que le fait qu'il ait gardé pour lui le portefeuille de la défense, c'est une bonne chose?
C'est sûrement une bonne chose, puisqu'il en a pris la décision. C'est lui qui a la légitimité pour prendre ça. La nécessité, c'est surtout de recréer derrière un appareil sécuritaire efficace et pertinent face à la menace. Et c'est pas lui qui va le faire au quotidien. Lui, il supervisera cette réorganisation. Il a fait ce choix parce que je crois que symboliquement, et vu l'histoire du pays, ça s'imposait de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion et que le message soit très fort.
L'ancien diplomate Laurent Bigot. Nous retrouvons à présent William Assanvo. Bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur au Bureau Afrique de l'Ouest de l'Institut d'études de sécurité spécialisé sur le Burkina Faso. La sécurité a-t-elle été mise à mal au Burkina Faso par le démantèlement du RSP qui était l'auteur du coup d'État manqué hein, du mois de septembre, selon vous?
Oui, le démantèlement du RSP a clairement privé le Burkina Faso d'un instrument qui était qualifié de bien outillé, bien équipé, avec des éléments bien formés justement pour faire face à cette menace. Mais je pense que même si le RSP avait été encore en place, il aurait été difficile pour lui de répondre à une menace de cette nature. Je pense que véritablement le défi de répondre à des actions de cette nature, d'éléments qui viennent avec une préparation, une attaque qui n'est pas très sophistiquée dans sa préparation, pose véritablement des défis aux forces conventionnelles. Et je ne suis pas sûr que le RSP, même s'il avait été existé, aurait été en mesure de prévenir cette action et d'y répondre aussi facilement et aussi rapidement que cela aurait été souhaité.
Alors, je m'adresse à présent à Smoky, membre du Ballet Citoyen. On parle, il y a un mot qui revient beaucoup là dans cette deuxième partie d'émission spéciale consacrée aux événements du Burkina Faso. Smoky, c'est défi. Vous savez de quoi il s'agit, puisque votre mouvement s'est beaucoup impliqué dans la révolution de la société civile. Quel est le défi majeur aujourd'hui qui attend le Burkina?
Écoutez, avant de parler de ce défi, je m'insurge en faux et je suis contre tous ceux qui disent que la dissolution du RSP a fragilisé la sécurité du pays. Bien au contraire. Je pense qu'au sein du RSP, il y avait plutôt plein de gens qui étaient plutôt proches de ces mêmes terroristes-là et que nous n'avions pas d'autre choix que d'en arriver à la liberté du peuple. Maintenant, je crois que ce qui est en train d'arriver au Burkina Faso peut arriver n'importe où, sachant que les terroristes ne sont pas des gens loyaux et qui se mêlent à la population civile. Donc c'est une chose qui peut arriver n'importe où, il faut qu'on l'affronte de face. Notre défi donc sera donc de montrer à la face du monde que nous sommes toujours unis et que nous sommes toujours mobilisés pour les intérêts du peuple burkinabé. Et ça, dans les quelques jours qui suivent, je crois qu'on va réussir à le démontrer. On attend de l'État et du gouvernement qu'ils mettent en place un numéro vert pour que tous les citoyens burkinabés puissent, quand ils ont des suspects, pouvoir intervenir. Et parce qu'il faut qu'on joue ce rôle de vigile, c'est éminemment important.
Si on vous a bien compris, vous appelez le gouvernement burkinabé à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme, cette idée de mettre en place un numéro vert pour faire réagir les burkinabés sur les risques éventuels. C'est cela votre idée, Smoky?
Tout à fait, mais nous ne nous dédouanons pas, nous ne dédouanons pas le peuple, parce que les populations aussi doivent s'engager dans ce combat, dans cette lutte-là. C'est très important qu'on donne aussi cet exemple. Il faut aussi donner le moyen aux forces de l'ordre, de l'armée régulière qui sont là, et qu'il faut qu'on le dise et qu'on arrête de dire qu'ils font un travail déjà suffisamment formidable, je trouve. Au regard des risques qu'ils prennent, il ne faut pas qu'on vienne nous dire, ouais, parce que je crois que toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement jusque-là montrent bien que c'était une angoisse et que cette menace d'insécurité, ils la prenaient déjà au sérieux. Sinon, le couvre-feu n'aurait pas été maintenu et le ministre de la Défense, le portefeuille du ministère de la Défense n'aurait pas été retenu aussi par le président. Donc on prend ces menaces au sérieux, mais il faut aller encore plus loin. Il faut amener les populations, sensibiliser les populations à l'intérêt qu'elles ont aussi à soutenir ce combat-là et à jouer franc jeu William, avec les forces de l'ordre.
Merci Smoky.
William Assanvo, vous avez entendu là, l'appel de Smoky, vous en pensez quoi?
Oui, je pense effectivement qu'il sera nécessaire pour les autorités burkinabées d'essayer de mettre le maximum d'efforts pour reconstruire et renforcer l'outil de défense et de sécurité du Burkina. Je pense que les autorités burkinabées, avec pleine conscience de la réalité de la menace, c'est indiscutable. Mais je pense aussi que ce n'est pas certain qu'ils avaient une compréhension des failles et des faiblesses auxquelles le pays, qui caractérise le pays. Donc il y a clairement une reconstruction de l'outil sécuritaire, de l'outil de renseignement, y compris au niveau des régions frontalières. Parce que comme on l'a vu au cours des derniers mois, c'est principalement au niveau des régions frontalières que la menace s'est exprimée. Donc il y aura un effort particulier à faire de ce point de vue. Il y aura bien entendu aussi la coopération régionale à renforcer, à mutualiser les forces des pays de la sous-région. Mais une fois de plus, il s'agira avant tout de pouvoir renforcer déjà au niveau de chacun des pays concernés leurs appareils sécuritaires. Parce que si on mutualise en l'état actuel des choses, les forces, on va arriver à mutualiser des outils défaillants, à multiplier des défaillances. Ça ne résoudra pas nécessairement le problème. Donc il y aura une action à mener au niveau de chacun des pays concernés, y compris au niveau du Burkina Faso, qui pourra renforcer la mutualisation qui viendrait par la suite.
Merci William Assanvo.
Oui, on repart à Ouaga, ville meurtrie, aujourd'hui ville en état de choc, un deuil national donc de 3 jours va être décrété à partir de demain. Ouaga frappé en plein cœur par ces attaques terroristes. Hier soir, rappelons-le, l'hôtel du Splendide et puis le café Cappuccino, un bilan d'au moins 28 morts, 150 personnes blessées, des scènes de terreur, des scènes de chaos même hier soir. Frédéric Guerra, vous êtes notre correspondant à Abidjan, vous êtes l'envoyé spécial des RFI à Ouaga et vous êtes rendu dans les hôpitaux. Quelle est la situation? On imagine l'état de choc général.
Oui, effectivement, il y a suivi un état de choc assez palpable, assez remarquable. Parmi les victimes, beaucoup d'entre elles sont abasourdies. Comme nous le disions tout à l'heure, un peu plus tôt dans cette spéciale, véritablement, les gens ont été cueillis, ont été pris par surprise par cette très violente agression. Surtout, cela a duré très longtemps. Les témoignages qu'on a eus sont ceux de victimes qui disent que les secours, en tout cas les forces armées sont arrivées apparemment assez tardivement pour riposter face aux assaillants. On s'interroge aussi, mais ça c'est sans doute l'enquête qui le déterminera sur l'endroit qui était véritablement visé. On parle évidemment de l'hôtel Splendide et l'hôtel Libye qui étaient en réfection juste en face, mais il semblerait, encore une fois, il faut attendre les résultats de l'enquête, il semblerait que le gros, si j'ose dire, des victimes aient été les clients du café Cappuccino. C'est en tout cas ce qu'il ressortait des échanges qu'on a pu avoir avec les responsables du CHU de l'hôpital Yagaro, le docteur Robert Sanga, directeur de l'hôpital, et puis le journaliste nous disait que c'est essentiellement les décès
Alors Frédéric, on le sait, il est encore trop tôt, toutes les victimes n'ont pas été identifiées, on parle de victimes originaires de 18 nationalités, vous en savez un petit peu plus?
Alors, bon, pas beaucoup plus que ça, on sait qu'il y a des
La ligne est mauvaise avec Ouagadougou. On va tenter de retrouver William Assanvo, chercheur au bureau Afrique de l'Ouest de l'Institut d'études de sécurité. Vous avez entendu notre envoyé spécial à Ouagadougou qui évoque un petit peu la situation ce soir au lendemain de cette attaque terroriste. Comment est-ce que la société burkinabé va-t-elle se relever finalement après cette attaque inédite dans la capitale?
Ben, je pense qu'il y aura tout d'abord un choc, la période du choc et le choc passé, je pense qu'il y aura un élan qu'on va observer, comme on l'a observé au cours des derniers mois, on l'a observé durant l'insurrection, comme on l'a observé durant la tentative de coup d'État de septembre 2015. On va observer encore un peuple qui va se lever, qui va exprimer son opposition à cette menace, et qui va se rallier derrière les autorités et attendre d'elles qu'elles apportent des réponses à ces difficultés-là.
Nafé Keïta nous a rejoint. Nafé Keïta. Non, on va rester avec William Assanvo.
Oui, donc ça n'est pas une surprise, vous le disiez. Enfin, ce que l'on constate en tout cas, c'est cette propagation des djihadistes dans l'Afrique subsaharienne. Vous nous entendez?
Oui, allô?
Oui, 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 on parlait de l'effet de surprise d'abord. D'abord, un, on est dans l'état de choc. Deux, maintenant, on va bientôt être dans les questions. Est-ce que pour vous, c'est une surprise, cette propagation du djihadisme dans l'Afrique subsaharienne?
Non, ce n'est véritablement pas une surprise. Je ne suis pas en train de dire que cet attentat était prévisible. Ce que je dis, c'est qu'on a observé au cours des mois derniers, dans le nord, dans l'extrême nord du Burkina Faso, il y a eu l'enlèvement du Romain en avril 2015, il y a eu une série d'attaques contre des gendarmes dans la même région, à l'ouest aussi du Burkina, il y a aussi des attaques en octobre ou en août. Donc je pense que véritablement ce que l'attaque d'hier nous rappelle, c'est que le Burkina Faso se trouve dans un environnement régional qui est particulièrement fragile et volatile, avec justement tous les groupes qui ont été évoqués, ACMI, Al-Mourabitoun, et aussi le Burkina Faso est aussi d'une certaine manière affecté par les dynamiques qu'on observe au Mali, avec les déplacements de la menace qui s'est opérée au cours des derniers mois, avec l'émergence de nouveaux fronts dans la région centrale du pays, dans le sud du pays. Donc c'est véritablement un rappel de cette réalité-là à laquelle on assiste aujourd'hui.
Merci William Assanvo. Sylvie, on va à présent voir un petit peu l'élan de solidarité qui a gagné les réseaux sociaux après cette attaque terroriste.
Oui, une avalanche de tweets, une avalanche de hashtags sur Facebook, sur Twitter, dès hier, dès le début des attaques. Ouaga attacks, hashtag je suis Ouaga sur le mode je suis Charlie, lorsque les attaques en France avaient frappé l'hebdomadaire satirique. Beaucoup de témoignages, je vous le disais, sur Facebook et Twitter, et bien sûr au Mali. On a vécu avec la plus grande attention cette nuit de terreur qui a frappé Ouagadougou. Écoutez ce Bamakois.
Ça nous a touchés, hein, surtout en tant qu'Africains, en tant que voisins. Nous sommes le Burkina et le Mali, c'est le même peuple. À un moment donné, ça nous a frappé ici à Bamako. Tout le peuple africain a été solidaire avec nous. Et quand cela touche un voisin aussi, on s'est dit que ça nous touche aussi énormément. Donc, nous sommes blessés. Et il va falloir que les autorités réagissent.
Quand vous voyez que ACMI, Al-Mourabitoun sont au Mali et maintenant ils sont aussi jusqu'au Burkina, ça vous inquiète?
Ça nous inquiète. Ça nous inquiète parce que quand ça va au-delà du Mali et ça a commencé au Burkina, que le Burkina ne connaissait pas ça avant. Et maintenant, disons que personne n'est à l'abri. L'Afrique de l'Ouest, nous ne sommes pas du tout à l'abri. Hein. Il y a le Sénégal, il y a la Mauritanie, il y a la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un problème burkinabé ou malien, c'est un problème africain.
Voilà le témoignage de cet habitant de Bamako pour conclure cette édition spéciale donc consacrée à l'attaque terroriste qui a touché le cœur de Ouagadougou hier soir. Je vous rappelle le dernier bilan, 28 morts, attaque qui a touché simultanément l'hôtel Splendide et le café-restaurant Le Cappuccino. Merci à Sylvie Berruet qui était à nos côtés pour cette édition spéciale. Merci à nos envoyés spéciaux Yaya Boudani et Frédéric Gara. Et merci à Victor Hull qui était à la réalisation ce soir. Restez à l'écoute de RFI, l'information revient dans 30 secondes.